Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 509 du podcast Jean Actuel. Mathieu, très heureux de vous retrouver pour la présentation de la troisième semaine de la saison NFL 2022. À mes côtés, Victor Roulier, bonjour.
Et bonjour Alain, bonjour à tous.
Victor, on est donc réunis pour parler un peu de ce qui va se passer en semaine 3 et ça va vite puisqu'il y a déjà 3 équipes qui étaient en playoff l'an dernier qui sont à 0 victoire et 2 défaites. On va se demander qui peut s'en sortir dans le débat de la semaine. L'affiche oppose les Miami Dolphins aux Buffalo Bills. On va essayer de voir si Miami a une chance face au rouleau compresseur de ce début d'année. Il y a aussi un très gros choc entre les Packers et les Buccaneers, c'est donc Aaron Rodgers face à Tom Brady une nouvelle fois, ce sera dans le hypomètre. Et puis les meilleurs coachs Unibet sont aussi là, c'est parti.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Bengals, Raiders, Titans, Falcons, Panthers, 5 équipes qui ont un bilan de 0 victoire et 2 défaites après 2 semaines de compétition depuis 1970. Victor, attention, instant stat lointaine. Depuis 1970, 400 équipes ont commencé par un 0-2, 38 ont joué les playoffs, ça fait 9,5%. 3 ont gagné le Super Bowl, je ne fais pas le pourcentage mais ça ne fait pas beaucoup.
Oui, sachant qu'avec la réforme quand même des playoffs, bon, pour l'instant, on n'en a pas eu. Sur les deux dernières années, il n'y a aucune équipe à 0-2 qui est en playoffs. Mais théoriquement, sur une longue période, ça devrait augmenter un petit peu à stat.
C'est vrai, puisqu'il y a une équipe de playoffs en plus par conférence. On va donc se demander, sur les 5, je trouvais ça peu, en fait, je pensais qu'il y aurait plus d'équipes à 0-2 d'ailleurs. C'est assez équilibré sur les 1 partout et les 2-0. Donc 5 équipes seulement, on va se demander lesquelles ont encore une chance, on va dire, d'aller en playoffs. On va se baser là-dessus, Victor. Je l'ai dit, Bengals, Raiders, Titans, Falcons, Panthers. On ne va pas passer beaucoup de temps sur les Falcons et les Panthers. On est d'accord, on élimine ces deux équipes très faibles. Ils ne remonteront pas la pente au point d'aller en play-off.
Non. Il y a deux dynamiques différentes. Hein. Les Falcons font mieux que prévu. Mais enfin, ce qui était prévu, c'est qu'ils soient top 3 de draft. Donc, on va pas commencer à rêver play-off. Et les Panthers, il y a du talent hein, dans l'effectif. Mais c'est tellement mal coaché, tu sens que le groupe vit pas ensemble. Non, on n'y croit pas.
Alors, Bengals, Raiders, Titans, c'est tous les trois en AFC, par coïncidence. Tous les trois étaient en play-off de l'AFC l'an dernier, c'est peut-être ça le plus étonnant quand même d'avoir les trois qui sont à 0-2, d'autant qu'il y avait des dynamiques qui n'étaient pas inintéressantes. Alors les Bengals vont au Super Bowl avec une grosse fin de saison, renforcent la ligne. Les Raiders s'en sortent pas mal l'an dernier, malgré tous les déboires qu'ils avaient eu quand même, Henry Ruggs, John Gruden, enfin ça n'arrêtait plus. Et les Titans, c'était peut-être le moins dynamique sur la fin de saison dernière. On commence par les Raiders. Est-ce que c'est mort pour les Raiders ? On va se poser la question, grosso modo, comme ça, pour chaque équipe.
Mais écoute, j'ai envie de dire oui. Ce qui est un peu paradoxal, parce que si tu me demandes quelle est la meilleure équipe entre les Riders et les Titans, je te dirais les Riders. Et pourtant, j'ai un peu moins d'espoir pour eux, parce qu'ils sont dans une division terrible, qui est la NFC West. Ils croisent avec la NFC West, donc pas des peintres. Et quand tu regardes leur calendrier, bah forcément, il leur reste les Chargers, les Rams, les Chiefs, les Niners, les Broncos, que des équipes qui vont être redoutables. Même les Saints, tu vois, c'est pas gagné. Et donc, deux matchs de retard dans la plus grosse des deux conférences, hein, puisqu'on en a, parlé la semaine dernière, il y a quand même une grosse différence de niveau entre NFC et AFC. Bah, voilà, deux matchs de retard, une identité offensive qui tarde quand même à se trouver. Là, on a eu deux matchs totalement différents. Une défense, on ne découvre pas, qui est un peu limitée. Je pense que ça va faire beaucoup avec ce calendrier. Et ils ont eu, entre guillemets, la chance d'accrocher la 7e place l'année dernière sur un match couperet à la dernière semaine. J'ai peur que ça soit difficile de faire la même chose cette année.
Je suis d'accord, autant sur le constat que sur... Enfin, sur le constat de l'équipe que le constat de la division, c'est-à-dire que c'est pas la plus mauvaise équipe des trois, clairement, et mais cette division les tue, ce calendrier les tue, et je te rejoins encore une fois sur l'identité, c'est-à-dire que pour moi, le gros problème, c'est qu'ils perdent dans les tranchées des deux côtés, la ligne, ils prennent déjà 7 sacs en 2 matchs, il n'y a pas d'identité encore offensive avec Josh McDaniels, peut-être que ça va venir, mais on l'avait déjà dit aussi dans le débrief, et ils perdent surtout dans les tranchées en défense, ils n'ont qu'un seul sac en 2 matchs défensivement, et ça dans leur division ça pardonne pas, tu vas jouer des Justin Herbert, des Patrick Mahomes et des Russell Wilson, bah, y a un moment où si t'as pas de pass rush ça va être terminé, donc je pense que c'est ça en effet qui les met dedans et qui va faire qu'en effet ils pourront pas en sortir, c'est très très compliqué pour d'imaginer Las Vegas, il faudra être au moins positif. Là, quand tu vois que la suite immédiate, c'est Titans, Broncos, Chiefs, il y a un monde où ils peuvent être à 0-5 quasiment.
C'est ça, mais tu parlais du pass rush. Le truc, c'est qu'ils ont un des meilleurs pass rushers de la ligue, qui est Max Crosby, mais autour, bah, il n'y a rien, quoi, ou presque rien. Donc, c'est vrai qu'on espérait des joueurs qui se révèlent cette saison. Alors bien sûr, il n'y a eu que 2 semaines pour l'instant, mais la réalité, c'est que des joueurs qui se révèlent en défense, il n'y en a pas. Au contraire, il y a des joueurs qui déçoivent. Donc là, vraiment, la dynamique n'est pas bonne. Et moi, je suis assez inquiet pour cette équipe, vu le calendrier, encore une fois.
C'est cuit pour les Raiders. Est-ce que c'est cuit pour les Titans? J'y vais fort, hein, quand je dis c'est cuit à chaque fois, parce que revenir nous hanter.
Est-ce que c'est cuit pour les Titans? Je ne pense pas que ça soit cuit pour les Titans. Bon, ils ont perdu contre les Bills. Ça, on va dire que de toute façon, c'était une défaite attendue. Ils ont perdu contre les Giants. Bon, ça, c'est con, parce que c'était quand même une victoire théoriquement facile. Cependant, je pense qu'ils peuvent revenir dans la course, parce qu'ils ont 2 matchs contre les Jaguars, 2 matchs contre les Texans, 2 matchs contre les Colts à venir. Et vu la dynamique des Colts, vu les limites des Texans, et vu quand même les limites des Jaguars, hein, même s'ils ont fait une très bonne deuxième semaine, la division, elle va se gagner à 9 victoires au maximum, et c'est même possible que la division se gagne en négatif sur un 8-9, tu vois. Donc, il y a encore le temps de se rattraper. Après, il va falloir très vite retrouver une vraie dynamique. Alors, parce que Edgy Brown est parti, ça fait mal, hein, cette attaque. Clairement, que ça soit Woods ou Burks ou Phillips, c'est intéressant, mais pour l'instant, ça ne fait pas la différence. Et puis, là encore, les lignes prennent l'eau. Hein. La ligne offensive, qui a toujours été une force, au moins dans le jeu de course. Le jeu de course, parce que dans le jeu de passe, ça a été très compliqué, même l'année dernière. Mais là, on a vu, Derrick Henry, il fait quoi? Il fait 1,5 yard par course contre les Bills, et il y a littéralement 0 place. Et même contre les Giants, qui est quand même une défense censée être beaucoup plus faible que les Bills, bah, c'était pas bon non plus. Tyler Levin est blessé. Alors, je ne sais pas s'il va revenir ou pas, mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Nicolas Petitfrère a une déception. Enfin, globalement, cette attaque, elle paraît beaucoup plus faible que les années d'avant. Ils n'ont pas ce facteur d'Eric Henry qui roule sur tout le monde pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Hein, mais, et en défense, bah, la blessure d'Aaron Landry fait mal. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font globalement un bon match contre les Giants. Hein, c'est pas en défense qu'ils perdent le match. Les Bills, bon, je ne sais pas si les Bills, ça peut vraiment être... Si on peut vraiment faire un... tester une défense sur les Bills, mais il va falloir faire mieux. Et la clé, ça va être de gagner un match de division. Parce que si tu t'en sors à 5-1 en division, par exemple, déjà, tu auras fait un grand pas vers une possible qualification en playoff.
Pour moi, je trouve qu'on peut résumer ça à ça. C'est-à-dire qu'ils sont vivants parce que leur division est naze.
Oui,
ça,
oui,
ça,
oui, oui.
Ça se résume à ça. C'est-à-dire que, tu l'as dit, Derrick Henry n'a plus de solution. Et une fois qu'il est bloqué, c'est compliqué. Ryan Tannehill est limité, à la fois par lui et par ce qu'il a autour de lui. Après deux matchs, évidemment, les stats ne sont pas très significatives, mais ils sont 27e sur les yards gagnés, 25e en défense. Donc voilà, c'est pas une bonne équipe, c'est une moins bonne équipe, c'est pas une équipe qui a le niveau playoff en vrai, c'était sur la conférence, et je sais pas s'il y avait un autre système, en tout cas que cette division, disons que c'est vraiment la plus faible des trois à mon sens. Voilà, pour moi ils sont vivants seulement sur la foi de leur division, parce que les Colts sont plus décevants encore que prévu, et que Jaguars Texans c'est pas prêt, donc c'est vraiment la seule chose qui les maintient en vie. Est-ce que c'est mort pour les Bengals? Je sais que tu as peur que Joe Burrow souffre du syndrome Carson Wentz.
Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, en grand expert de la NFCS, tu m'avais donné le Bengals Cowboys à 22h dimanche. Je m'attendais à une boucherie. Hein. Je pensais que mon résumé serait fini à mi-temps. Bon, bonne surprise. Ça a été un match plus qu'accroché et même un upset à la fin. Mais clairement, sur le papier, ça reste une top 10 équipe de la Ligue. Donc, tu vois, ils peuvent finir la saison à 17 sans problème et accrocher les playoffs.
Alors, justement, quand tu dis ça, ça me donne envie de... On ne va pas répéter ce qu'on a dit sur le bureau dans le débrief, la pression, etc. Mais tu dis, sur le papier, c'est une équipe du top 10. Alors, est-ce qu'on en vient à dire que le problème, il pourrait être de coaching? Parce que les problèmes restent les mêmes.
Ça peut. Je dirais que le problème n'est pas en défense. Parce que globalement, sur les deux matchs, ils ne prennent pas tant de points que ça. Hein. Ils doivent prendre 20 points, même pas 18 points par match. Le problème, il est en attaque. C'est le coaching n'est pas inspiré. Joe Burrow n'arrive pas à manipuler sa poche. Et on l'a vu un peu l'année dernière, mais c'est encore plus flagrant cette année. Joe Mixon est un non-facteur. Et ça, on l'oublie trop souvent. Mais l'année dernière, en saison régulière, oui, Burrow fait le taf. Mais Mixon est d'une aide extraordinaire. Et bah, la greffe au niveau de la ligne offensive, elle ne prend pas. Quoi. Collins, il est transparent. Ce n'est absolument pas le Collins qu'on a vu aux Cowboys. Et Kappa et Karras ne sont pas au niveau. Donc, c'est global, en fait. C'est global. Il y a un problème Burrow. Il y a un problème Mixon. Il y a un problème ligne offensive. Et du coup, bah, à un moment, Jamar Chase, il ne peut pas tout faire tout seul. Donc...
Mais tu vois, moi je te demande ça parce que Chase justement dit il faudrait qu'on s'ajuste mieux à la mi-temps, faudrait qu'on s'ajuste mieux par rapport à ce qu'on faisait l'an dernier. Ça commence à pointer de... On a l'effectif, mais peut-être que le coach a construit, mais peut-être pas celui qui va faire passer le palier définitif. Tu vois.
Ah bah c'est sûr que réussir une bonne saison, c'est une chose. Réussir sur plusieurs saisons, c'est une autre. Je rappelle que Matt Nagy, il y a moins de 5 ans, est coach de l'année.
Ouais, ouais.
Et faut voir ce que ça a donné derrière, quoi.
Et c'est là où on voit si une franchise elle a passé un palier dans son organisation aussi. C'est est-ce que c'est le moment où le proprio il a le courage de dire ok j'ai le groupe mais il va falloir prendre le risque de dire je prends un mec malgré les bons résultats. Et je dis ça pas par hasard parce que les Bengals ils ont gardé c'était Lewis non comment je confonds toujours le coach qui est resté des années. Marvin Lewis.
Oui,
voilà.
Marvin Lewis. Oui. Ils l'ont gardé avec
Mike
trop Brown,
le propriétaire.
Oui.
Voilà. Marvin Lewis, ils l'ont gardé pendant des plombes en disant ouais, mais il gagne 9-10 matchs par an et c'est très bien, etc. Et ils ont gâché ce qu'ils avaient à ce moment-là avec Carson Palmer et compagnie. Donc pour moi, c'est. Voilà. Après, comme tu l'as dit, ils perdent en prenant 23 et 20 points contre des équipes qui n'ont pas une grosse attaque, mais la défense est là. C'est à surveiller. Après, ils vont se relancer. Ils peuvent en tout cas se relancer avec leur calendrier. Jets, Dolphins, Ravens, Saints, Falcons, Browns. Panthers, Steelers, Titans, bon, c'est prenable hein, pour eux, tout ce qui vient en théorie. En tout cas, ils sont censés être dans les matchs.
Ouais, il y en a 2-3 qui peuvent être difficiles, comme les Dolphins ou quoi, mais en tout cas,
ils peuvent
gagner 5 sur les 7 prochains. Quoi.
Voilà. Donc, moi, je commence à regarder Zach Taylor à ce moment-là, parce que je me dis, depuis deux semaines, j'avais le bénéfice du doute, j'étais un peu aveuglé peut-être par la belle histoire de l'an dernier, le Super Bowl, etc. Maintenant, s'il n'y a pas de progression, si la ligne ne progresse pas alors que tu as fait venir des nouveaux joueurs, si Burrow il prend toujours autant de sacs, au bout d'un moment, les joueurs ils sont censés être coachés et progresser, parce que Burrow, ça reste un mec jeune. Donc je veux bien qu'à chaque fois on dise oui, il y a des aptitudes innées, pas innées, mais voilà, il va falloir quand même au bout d'un moment savoir si le coach il fait son taf aussi, quoi, parce que tu vois des équipes où ça progresse vite, tu vois comment Josh Allen a été développé, tu vois plein de trucs comme ça. Donc il va peut-être falloir regarder de ce côté-là. Cuit ou pas cuit, du coup, les Bengals, pour terminer ?
Non, pas cuit.
Pas cuit, notamment, encore une fois, grâce au calendrier. Donc, pour l'instant, on n'a que les Raiders de cuit.
Et les Falcons et Panthers, mais...
Oui,
ça, parmi c'est... les équipes qui pouvaient prétendre au play-off, encore une fois, c'est loin d'être une mauvaise équipe, mais là, ça s'enchaîne quand même très mal.
Allez, donc, ouais. On élimine prématurément les Raiders, et peut-être que ça reviendra nous hanter, parce que c'est le jeu. L'affiche de la semaine oppose, alors après moult négociations, il faut le dire, là cette semaine ça a négocié dur pour l'affiche de la semaine, entre Dolphins Bills et Packers Buccaneers, et on a fini, moi j'ai laissé le final cut à Victor qui a choisi Dolphins Bills. J'étais plus sur le duel des vieux de la NFC entre Brady et Rodgers, je trouvais qu'il y a un petit enjeu quand même, on en reparlera, mais Dolphins Bills, deux équipes invaincues, rivalité de division, match hyper important. Gros test pour Miami, je suppose que c'est ça qui t'a attiré, mais comment tu vas me convaincre que les Dolphins ont une chance ? Parce que là, c'est un peu l'enjeu pour défendre ton affiche.
Alors pour moi, il y a deux clés où les Dolphins doivent dominer. La première, c'est que Tre'Davious White est sur la liste des blessés et que Dave Jackson s'est blessé, une grosse blessure là, cette semaine. Du coup, au niveau cornerback, les Bills, c'est quand même très limité. Enfin, je veux dire, globalement, là, c'est Benford, c'est des joueurs quand même, c'est Kyrie Lamb, donc c'est des joueurs inexpérimentés, pas sans talent, mais inexpérimentés. Si jamais ils se retrouvent à aligner deux rookies, donc Benford et Lamb, contre nos chers amis Tyreek Hill et Jalen Waddle, ben, tu sais que le 150-150 de la semaine dernière, il peut se reproduire, quoi. Alors, je pondère, hein, puisqu'il y a quand même une paire de safety, Hyde et Poyer, qui vont aider cornerback et limiter tout ça. Mais je suis pas sûr que la défense des Bills puisse vraiment résister à cette armada des Dolphins. Là, pour le coup, les Dolphins, moi, je trouve que tu as ses limites. Mais par contre, il est précis. Il prend pas des risques inconsidérés. Et alors, le design des coachs offensivement, moi, m'a séduit contre Baltimore. Donc, oui, il y a un monde où il marque beaucoup de points. Et de l'autre côté, bah, écoute, je trouve que le front seven, que ça soit Zach Seeler, que ce soit évidemment Wilkins ou même Melvin Ingram, hein, qui semble retrouver de l'allant, on va dire, à Miami. Bah, il faut se rappeler que si les Bills sont bien un problème, c'est la ligne offensive, hein, qui est toujours aussi catastrophique. Sauf Dion Dawkins, mais le reste, ça reste très compliqué. Donc, imaginons, comme on sait que les Bills sont pas forcément un gros jeu de course, imaginons un Allen sous pression et de l'autre côté, un Tua qui capitalise et qui multiplie les points. Ça me paraît, bien sûr que Buffalo est favori, mais ça me paraît pas farfelu de dire que Miami peut créer la surprise.
Oui, on peut se dire aussi qu'après deux premières semaines de feu, tu peux avoir un petit coup de... pas de moins bien, mais ralentir un petit peu.
Oui.
J'avais du mal à être convaincu sur la base de cette rivalité de division, c'est 7 victoires de suite pour Buffalo. Les 4 ouais. derniers matchs. C'est 31-28, 56-26, 35-0, 26-11. Tua Tagovailoa, sur les deux matchs qu'il joue contre les Bills, c'est un touchdown, 4 interceptions.
Il n'y avait pas le même coaching.
C'est ça.
Il y a plein
le passé, le passé est passé. Très bien. Tagovailoa, c'est 6 touchdowns en deuxième mi-temps la semaine dernière. Ça veut aussi dire qu'il n'en avait que 1 sur les 6 premiers cartons de la saison.
Oui.
Tu vois, c'est ça, ça va quand même être plus fort en face que ce qu'ils ont joué. Donc, je suis... et tu vois, la défense a pris 38 points contre les Ravens. Ça va être plus fort en face encore avec les Bills et c'est plus complet. Donc, je vois ce que tu veux dire sur les cornerbacks. Pourquoi pas ? À la limite, il faut qu'ils emballent le match, etc. Mais tu vois, s'ils emballent le match, de toute façon, Buffalo n'a pas vraiment besoin de son jeu de sol et puis ça va balancer dans tous les sens et... Tu me dis Josh Allen est sous pression, mais ça se sent pas beaucoup, quoi, que la ligne elle est pas très très bonne depuis le début de l'année.
Oui, oui, mais parce que c'est un joueur exceptionnel. Mais tu vois, moi, l'attaque des Dolphins, je la comparerais à l'attaque des Rams quand ils vont au Super Bowl. Pas le dernier Super Bowl, celui Jared Goff. Tu vois, pour moi, Tagovailoa, c'est un peu Jared Goff. C'est-à-dire, oui, intrinsèquement, c'est peut-être pas un top, top niveau. Mais là, il a toutes les armes et tout le coaching pour l'aider, en fait. Et le recrutement de Teron Armstead se fait déjà sentir, hein, forcément, quand même si c'est pas à gauche, c'est pas son côté aveugle, hein, par définition, puisqu'il est gaucher, Tagovailoa, mais ça fait quand même toujours du bien. Donc, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a, bien sûr, les Bills sont favoris, mais il y a un potentiel upset. C'est à Miami. C'est pas négligeable, hein. Écoute, quand t'es à domicile, ça peut toujours jouer.
Est-ce que pour toi, ça va forcément être festival dans les airs côté Miami ? Parce que le plan de jeu, souvent, quand tu joues une équipe bien supérieure, qui est très explosive, c'est de dire on va mettre le ballon au sol, on va contrôler l'horloge, etc. Le problème, c'est que Miami, 28e jeu au sol et 75 yards par match.
Ouais.
T'as pas trop les armes pour le faire. Mais est-ce qu'ils pourraient essayer ?
Non, moi, je pense que tu peux plus contrôler l'horloge avec beaucoup de petites passes. Parce que tu sais que ce front seven des Bills va être difficile à manœuvrer. Mais comme tu as deux piles électriques qui peuvent faire des yards après catch, après réception, tu peux imaginer un jeu basé sur beaucoup de screens, beaucoup de petites passes, des petits gains, et du coup, contrôler l'horloge plutôt de cette manière-là. Tu pilonneras pas au sol. Mais, tu vois, une petite course de temps en temps, une petite screen pour Waddle, Hill ou même Mostert, hein, qui peut faire les gains. Moi, je verrais plus comme ça, sur une attaque de jeu court. Et puis, de temps en temps, bam, j'essaye de te surprendre avec un Tyreek Hill qui part. Et alors, Tyreek Hill, si t'as pas compris qu'il partait dans la première seconde, t'es foutu. Donc, j'imagine plus comme ça.
Est-ce que, oui, tu me l'as bien vendu. Écoute, je te félicite parce que j'étais moyennement chaud, mais tu commences à bien me le vendre. Donc je l'accepte comme affiche de la semaine. En plus, il y a l'avantage que c'est un dimanche à 19h, donc ce sera quand même assez largement visible en France. Je sais pas si c'est le match de la semaine sur l'équipe TV. Je sais pas s'ils l'ont annoncé ou pas encore leur match de la semaine.
Mais par contre, c'est pas toujours le meilleur match parce que tu sais, on ne leur propose pas tous les matchs. Hein.
Oui, je sais.
Ils ont le choix dans un calendrier un peu restreint.
C'est ça, ils peuvent pas se servir sur tout. Après, ce serait cool, en tout cas, c'était celui-là, parce que pour le coup, tu me le vends bien. Du côté des absents, il y aura peut-être Gabe Davis, hein, qui est incertain, du côté de Buffalo. On en parlait avant l'émission, Byron Jones, côté Miami, ça joue toujours pas. Hein.
Non, c'est 4 matchs à out, comme Tre'Davious White. Il est sur la liste.
Il est sur la liste des blessés. Pronostic, est-ce que tu vas oser ?
Non, quand même pas.
Voilà. Ah bah voilà, ça va pas au bout de ses convictions.
Non, ça va pas au bout de ses convictions. Écoute, je mise sur les Bills.
Tu mises sur les Bills. Eh bah écoute, je vais miser sur les Bills aussi, tout de même.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
It's time, baby! baby. Make it special tonight. Make tonight special.
It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong.
Yes, sir.
We're going to work on three. One, two, three, work.
Victor ne va pas prendre de risque sur les pronostics tout de suite parce qu'il a un petit retard à combler. Il faut le dire, la semaine dernière, la NFL n'a pas encore été très sympathique avec lui. Un score de 7 pour toi, Victor. 7 pour Lucas aussi. 6, Raoul a fait encore moins bien que vous. Ah, Raoul, ça fait 2-6 de suite. Hein, ça fait très très mal. Raphaël, 9. Moi, j'avais été à 8. Et Grégory, à 10, qui signe la meilleure semaine pour reprendre le lead. La tête, pardon. On n'est pas sur LinkedIn. Il faut que je parle en français. 14 pour Lucas. Alors, attends, il faut que je regarde vers Raoul quand je dis le premier score. 12 pour Raoul. 14 pour Lucas. 15 pour Victor. 17 pour Raphaël et moi. 18 pour Grégory. On est
nul.
Pas...
Non, mais tu
ouais.
Peux...
C'est pas ouf hein, pour l'instant. C'est-à-dire que je vous ai donné les scores, ça fait bien, genre 12, 17, machin et tout. 37,5% de bons pronostics pour Raoul, 43,8% pour Lucas, 46,9% pour toi, 53,1% pour Raphaël et moi, 56,3% pour Grégory.
Ah non, mais l'année dernière, on était à 68% hein, en comparaison,
vache.
En moyenne.
La vache.
Donc,
sur les deux premières semaines,
ouais. Ouais. Ouais, on était sur du 68%. Non, c'est catastrophique, mais en même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des surprises dans tous les sens et qu'on passe des bons week-ends parce qu'on voit des upsets de partout et que ça remet en cause tout ce qu'on sait. Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et pour le coup, on l'avait un peu dit quand même la semaine dernière que c'était hyper dur à pronostiquer.
C'est vrai. Mais...
La semaine dernière, on l'a redit même pour les cotes Unibet, pour tout. On n'arrêtait pas de dire que c'était hyper dur et que c'était vraiment pas évident. Le hypomètre, là je commence parce que c'était celui que je voulais en affiche de la semaine à la base. Buccaneers, Packers, dimanche 22h25. C'est un peu plus tard que celui dont on parlait, va falloir veiller. Mais le duel Brady-Rogers, probablement le dernier Brady-Rogers. Il n'y en a pas eu autant que des Federer-Nadal, mais c'est quand même plutôt pas mal. Brady a plus d'armes, beaucoup plus d'armes en attaque en tout cas. Tampa n'a pris que 6,5 points en moyenne sur les deux premiers matchs. Alors, je sais que c'était pas toujours des grosses équipes en face, mais très très grosse défense de Tampa, plus d'armes en attaque, même si Mike Evans est suspendu pour ce match, mine de rien, c'est pas anodin, mais je vais prendre les Buccaneers.
Oui, je vais prendre les Buccaneers aussi. Je suis toujours très inquiet par les Packers, même s'ils ont battu des faibles Bears. L'attaque semble toujours autant limitée. Enfin, les receveurs, il n'y en a pas un qui sort du lot. Et du coup, ça se repose beaucoup sur les running backs. La défense n'est peut-être pas aussi impériale que j'aurais pensé. Donc, j'aime bien, je crois que c'est Lucas qui disait pendant le podcast que cette équipe des Bucks, elle ressemblait un peu aux Patriots du premier triplé. Mmh. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que vraiment, ça se base avant tout sur une défense de fer. Et s'ils continuent sur cette dynamique, vu comment les receveurs sous-performent du côté de Green Bay, ça peut faire la différence que s'il n'y a pas de Rodgers, il n'y a pas de victoire.
Donc Buccaneers pour toi aussi. Quel match tu veux voir ensuite? Je vous rappelle que cette année, on vous annonce les matchs dans l'ordre dans lesquels on a envie de les voir. C'est le hypomètre, la hype avant tout.
Alors les gens vont commencer à comprendre qu'on a deux stratégies différentes. Moi j'aime bien les matchs couperés, les matchs un peu où tout peut se perdre. Et donc du coup, pour faire un peu écho à ce qu'on a dit dans le débat de la semaine, j'ai pris le Titans Riders.
Je l'avais aussi, tu vois, au même endroit.
Parce que quand même, enfin, ces deux équipes, tu l'as dit, qui étaient en play-off, qui commencent à 0-2... Il y a une des deux qui doit se réveiller, quoi. Donc, Davante Adams, il peut faire très mal aux Titans. Mais Derrick Henry, il peut faire très mal aux Riders. Donc, ça va vraiment être force contre faiblesse des deux côtés. Et du coup, ça peut donner un match sympa. C'est un vrai... Enfin, je dis pas... C'est pas non plus win or go home. Gagner ou rentrer à la maison. Mais presque, quoi. Faut vraiment lancer la machine maintenant. Et du coup, il va y avoir une pression assez inédite dans ce match. Dès la troisième semaine, c'est rare.
Tu choisis qui dans ces conditions? Ce n'est pas facile. Hein.
Je vais choisir les Titans, mais honnêtement, tu peux faire un pile ou face. Quoi.
Ouais. Je vais prendre les Raiders, parce que je me dis que ça va finir par passer pour McDaniel et qu'ils ont un peu plus d'armes. Mais ouais, très beau match. J'enchaîne avec Broncos 49ers. Le Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin. Le Raiders Titans, on l'a pas dit, c'est à 19h dimanche. Garoppolo quand même pour voir si ça roule. On a dit que c'était $1 pour les 49ers dans le débrief, donc ce sera quand même à voir. Et puis voir si les Broncos peuvent enfin démarrer. Est-ce que c'est un match défensif? Parce que les deux équipes ont pris que 13 points en moyenne sur les deux premiers matchs.
Oui, après, il faut remettre dans le contexte. Hein, parce que,
avec des attaques qui ne tournent pas.
Hein, oui. Je veux dire, les Broncos, ils ont affronté Seahawks et Texans. Et les 49ers, ils ont joué dans une piscine la première semaine. Et pareil, la deuxième semaine, en face, ce n'était pas incroyable.
Ça se joue un peu plus haut. Ça va être un 27-23. Ouais.
Ces deux équipes, je ne sais pas quoi en penser. Alors bon, moi, je pense que les 49ers sont meilleurs avec Jimmy G que Trey Lance. Alors, pas forcément moyen long terme, hein, on ne saura pas tout de suite, mais en tout cas à court terme. Je pense que c'est exactement le quarterback qui correspond au système Shanahan, quoi. C'est vraiment la manipulation de la poche, un quick release, donc un lancer rapide. C'est exactement ce qui a toujours marché. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont allés au Super Bowl et en finale de conférence avec lui. Et de l'autre côté, les Broncos, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet par Russell Wilson. Et encore plus, évidemment, mais bon, vous l'avez dit en long, en large et en travers dans le débrief, mais par le coaching, qui est absolument incompréhensible. On se prend la tête dans les mains trois fois par match en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as une 3e et 5, tu cours. Très bien, super. T'as payé un quarterback 250 millions. Tu peux gagner la première semaine, tu tentes un field goal de 250 yards, alors que t'as Russell Wilson qui peut lancer la balle. Enfin, c'est incompréhensible. T'as l'impression que le mec joue avec Geno Smith, alors que merde, alors, c'est Russell Wilson. Quoi.
Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que tu pronostiques sur lui?
Non, moi je pense que la défense des 49ers, c'est trop forte.
Eh bien, 49ers, 49ers pour tout le monde hein, dans la rédaction. Le match suivant.
Le match suivant, je pense qu'il va être bas chez toi, mais je sais pas. Du coup, ça commence à m'intriguer. C'est Chargers-Jaguars.
Ah, je croyais que tu allais en dire un autre. Mais tu vois, non, je l'avais juste après. D'accord. C'était pas mon suivant, mais c'était juste après.
Parce que j'ai couvert les Jaguars à 19h. Et alors, je dois t'avouer que ça fait longtemps que j'avais pas pris du plaisir à regarder les Jaguars jouer. Bon, alors, ils jouaient tout seuls, hein, parce que les Colts avaient décidé de pas venir, mais... Mais alors, quel plaisir! Et j'ai retrouvé le Lawrence de Clemson, intelligent, qui sort de la poche seulement quand il faut, qui est patient, qui fait des bons lancers. Il y a quand même, j'ai l'impression, un effet Doug Peterson dès maintenant. Alors bien sûr, ils seront ultra outsiders face à la machine Chargers. Astérisque sur la santé d'Herbert, hein, parce que bon, avec les côtes... fragilisé, bon, on ne sait pas dans quel état il va être. Malgré tout, je pense que voilà, il y a tellement de talent en attaque et en défense aux Chargers que ça devrait suffire à gagner ce match. En plus, c'est au SoFi Stadium, hein, c'est Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises.
Ce que j'aime bien, c'est que depuis le début, à chaque fois, tu fais « Je suis vraiment hypé par cette équipe, les Dolphins, les Jaguars, mais ils vont perdre.
» Oui, tu peux être hypé et reconnaître que la différence de talent est trop forte, quoi.
Non mais moi je l'avais assez haut aussi parce que je voulais en effet les voir s'étalonner contre une vraie bonne équipe. Je pense pas qu'ils vont gagner non plus, mais ce sera intéressant de les voir s'étalonner contre des Chargers qui sont quand même supérieurs dans à peu près tous les niveaux. Donc voilà, donc Chargers pour tout le monde. Dimanche c'est à 22h05 ce match-là. Juste après, en fait je l'avais, c'est le seul match que j'avais juste avant le Chargers-Jaguars. Et tu vas voir, ça peut-être t'étonner aussi. C'est le Monday Night Football, 2h15 du matin dans la nuit de lundi à mardi. Les Giants contre les Cowboys.
Ouais.
NFC Est. Bah parce que en fait... Les autres m'ambiancent pas plus que ça. Et je me dis difficile de faire plus imprévisible que celui-là. C'est-à-dire que si tu veux, si t'aimes le suspense, si tu veux avoir un match qui va aller sur une échelle de chelou à fou, à mon avis, tu peux aller voir ça. C'est-à-dire que je sais pas trop sur quoi ça va se jouer. Et puis j'ai envie de voir la défense des Cowboys probablement faire retomber les Giants sur terre.
Oui. Alors, les Giants, que j'aime beaucoup, hein, parce que moi, les rivalités de division, je m'en fous un peu, et c'est une équipe que j'ai toujours appréciée. J'ai regardé les deux premiers matchs, on se fait chier quand même. Ils gagnent, hein. Ils gagnent, et tant mieux pour eux, il y a une nouvelle mentalité, ils se battent, ce qu'on ne voyait pas l'année dernière, mais alors on se fait chier. Et du coup, je pense en effet que le Cowboys Giants, les Giants, la grande force pour l'instant, c'est la défense qui, malgré les blessés, genre Thibodeau ou Joe Harry, Martindale arrive à tirer le meilleur de ce groupe. Et de l'autre côté, les Cowboys, ils vivent et meurent par leur défense, ça c'est clair, et notamment par Micah Parsons, qui a déjà un pied sur le défenseur de l'année pour moi. Enfin, vraiment, c'est trop, quoi. C'est trop ce qu'il fait. Et je pense en effet que ça peut finir dans un bon 13-12 des familles, tu vois, le truc assez sale. Après, voilà, je pense que Dallas a quand même des coordinateurs qui font bien le travail. Et Cooper Rush a montré que ça ne sera jamais un grand joueur, mais il peut faire la différence. Donc, pour le coup, tu vois, je vais changer mon pronostic parce que j'hésitais encore ce matin. Et je vais pronostiquer les Cowboys.
Je te voyais dans le fichier, je me disais, tiens, celui-là, on pourra peut-être le récupérer. Donc, Cowboys pour tout le monde. Le match suivant.
Eh bien, le match suivant, pour moi, il n'y a pas trop de débat. C'est Cardinals-Rams, quand même. Parce que les Rams, ils sont loin d'être impériales. Enfin, au bout de trois quarts-temps, on se disait, ah, on a retrouvé les Rams, incroyable et tout. Et il y a eu ce quatrième quart-temps absolument étrange face aux Falcons. Et de l'autre côté, les Cardinals, bah, ils sont miraculés, mais ils ont gagné un match. Kyler Murray est toujours là. À mi-temps, j'ai dit qu'il y avait un problème, Kyler Murray. Il n'a pas aimé mon tweet. Hein. Derrière, je pense que clairement, il s'est révolté. Bon, ils ont toujours des armes offensives qui sont manquantes sur blessure, mais je trouve que la ligne a montré du mieux en fin de match, notamment Humphries, qui est un peu le phare dans la nuit. La défense commence à progresser bon an mal an, donc je suis pas sûr que ça va être une promenade de santé pour les Rams. Les Rams
J'aime
sont
bien parce que
favoris.
Tu te bases sur la fin de match des Rams pour les discréditer et sur la fin de match des Cardinals pour leur mettre du crédit.
Disons que c'est ce qui rend ce match un peu plus équilibré que j'aurais pensé avant dimanche dernier. Mais je pense quand même que les Rams vont gagner.
Ces fins de match, en effet, rendent intéressant l'idée de voir ce match. C'est dimanche à 22h25. Je suis comme toi, je suis impatient de voir ce que ces fins de match veulent dire. Et c'est un vrai test pour les deux. Donc ça va être intéressant. Il faudra un match plein des Rams cette fois. Donc je pense que... T'es allé sur qui du coup ? Au niveau du prono,
Je suis allé sur les Rams quand même.
Sur les Rams, ouais. Les Rams pour moi aussi. Mais ouais, match intéressant. Je vais dans la NFC pour la suite, dimanche à 19h. Match imprévisible qui pourrait être totalement fou offensivement. Vikings-Lions.
J'avais
le même. Les Vikings se sont plantés en prime time, c'est leur truc. Mais du coup, là, c'est à 19h. Ils sont irréguliers, donc ils sont capables de rebondir complètement dans ce match. Je le trouve hyper dur à pronostiquer. C'est le seul sur lequel je suis pas encore décidé pour l'instant. Je sais pas quoi faire parce que c'est deux des équipes les plus difficiles à pronostiquer en plus quoi. Donc je vois que tu vois au classement, je suis derrière Raphaël et Greg, je vois qu'ils ont tous les deux mis les Vikings. Je pourrais déjà essayer de jouer tactique, mettre les Lions, mais je sais pas, c'est un pile ou face pour moi.
Je pense pas que ça soit un pile ou face. Là encore les Lions, c'est un peu comme les Jaguars, c'est devenu très fun, notamment offensivement. Mmh. C'est encore limité défensivement et je n'imagine pas Dalvin Cook, Justin Jefferson et Adam Thielen disparaître deux matchs d'affilée. Je pense que là, ils ont la rage après leur performance de lundi et à mon avis, ça va clairement... Il va y avoir un match revanche. Mais je pense qu'il peut y avoir beaucoup de points parce que la défense des Vikings avait un plan de jeu étonnant face aux Eagles. Et il va falloir se remettre à tête à endroit parce que bon, Jared Goff c'est pas Jalen Hurts, hein, ça c'est sûr, il va pas faire des grandes courses, mais il peut y avoir pas mal de points des deux côtés.
Ça va être un beau match, tu m'as convaincu, je vais prendre les Vikings. Je te laisse enchaîner.
J'ai un doute.
Bonjour. Ouais, là on est, il nous reste ouais.
Ah, je vais prendre Patriots Ravens.
Patriots Ravens.
Ouais, parce que
je l'avais beaucoup plus bas.
Ah oui.
Ouais.
Oh, parce que déjà il y a un facteur fun chez les Ravens depuis que Lamar est là, c'est toujours fun de voir les Ravens. Donc oui. Déjà ça joue. En plus, bon bah cette défaite cruelle, je n'ose penser que les Ravens fassent une performance défensive de ce niveau-là deux semaines de suite. Donc l'attaque, tu sais qu'elle va tourner. Ça y a pas de problème. En plus la défense des Patriots n'est pas impérial cette année. Bon, ils ont limité les Steelers à 14 points. Enfin, c'est Trubisky, quoi. Je veux vraiment voir l'attaque des Patriots, qui est quand même très moyenne cette saison, face à une défense des Ravens qui s'est plantée. Donc, lequel des deux va se relever? Je pense que ça sera les Ravens, mais du coup, quand même, ça reste... Puis bon, Patriots-Ravens, c'est deux places fortes de l'AFC. Ça reste quand même un match que j'ai envie de voir.
Je suis sur le même match-up que toi, c'est-à-dire voir l'attaque des Patriots face à la défense des Ravens. Après, je vois pas dans quel monde Lamar Jackson mène une attaque à moins de points que Mac Jones actuellement. Donc, je vais dire les Ravens.
Moi aussi.
Ravens pour tout le monde dans la rédac. Je vais vers les Commanders et les Eagles derrière à 19h. Les retrouvailles entre Carson Wentz et les Eagles quand même dans un match de division. La vengeance, quoi. La vengeance de Carson Wentz qui va calmer le gros départ des Eagles cette saison. Je pense qu'en vrai, l'attaque de Philly est bien solide et que Wentz va faire une ou deux erreurs pour... soit il fait une ou deux erreurs pour filer le match, soit il fait une ou deux erreurs et qu'il revient en fin de match pour rien. C'est le scénario le plus probable. Après, c'est pas impossible dans ces matchs de division qui gagnent. Mais les Eagles sont complètement favoris. C'est dimanche à 19h et je prends les Eagles.
Ouais, les matchs de division, c'est toujours piège. Notamment Washington qui, en général, réussit pas mal contre les Eagles. Ils arrivent toujours à en accrocher un. Je pense que quand même... Tu vois, la défense des Eagles, elle a été inexistante contre les Lions et impériale contre les Vikings. J'attends de voir dans quelle direction ils vont aller face à Dotson, face à McLaurin, etc. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ils peuvent confirmer que, voilà, ils ont eu un trou d'air en semaine 1, mais c'est une défense solide, ou est-ce que ils ont juste profité du Cousins Monday Night Football, tu vois? Donc, moi, c'est ça qui va le plus m'intéresser, parce que l'attaque des Eagles marquera des points, mais est-ce que l'attaque des Commanders va en marquer aussi? Et on a quand même un défaut structurel chez les Eagles depuis deux semaines, c'est la defensive line qui n'y arrive pas. Là, ils affrontent une offensive line qui cumule les blessures, notamment Chase Roulier, hein, mon cousin, ça a dû à lui. Et du coup, Carson Wentz, on sait que c'est pas le meilleur pour gérer sa poche, donc qui va gagner ce match-up, ça peut être intéressant aussi. J'y vais avec les Eagles, mais tu l'as dit, match de NFC Est, attention.
Allez, il en reste encore quelques-uns. Victor, à toi.
C'est dur, là. Moi, j'aime pas cette semaine. Je te l'ai dit hors antenne, mais je trouve qu'il y a beaucoup de matchs qui sont inintéressants. Enfin, bon. Je vais y aller sur le match du jeudi. Browns-Steelers. Alors, pas tellement pour le fun, hein, parce qu'on va pas se marrer, mais parce que, quand même, il y a des enseignements à tirer. C'est-à-dire que les Steelers, on sait ce que c'est. Faible attaque, grosse défense.
Faites que ce soit le match où ils font entrer Kenny Pickett. C'est tout ce que je veux de ce match.
Ou alors le match où enfin ils utilisent correctement Najee Harris et ils le font performer, parce que je connais plein de gens qui l'ont pris au premier tour de la fantasy et qui commencent à le regretter, tu vois.
Ah oui, c'est toi d'ailleurs.
Je donnerai pas de nom.
C'est ça, il était dans l'équipe que j'ai battue cette semaine, c'est vrai.
Ouais, je fais deuxième meilleur score de notre ligue et je tombe contre ce mec qui fait un meilleur score que moi. Bref.
T'as pas eu de bol, hein. T'as pas eu de bol.
Bref. Donc voilà, j'ai envie de voir si Najee Harris peut réussir. Et les Browns, bah, y a quand même beaucoup de questions, quoi. La course n'est pas si impériale que ça. C'est marrant, leurs deux forces, ça devait être la course et defensive back. Et finalement, c'est les deux groupes qui déçoivent le plus. Donc Nick Chubb, à mon avis, s'est fait remonter les oreilles, hein, puisqu'il pouvait gagner contre les Jets. Il posait un genou à terre, mais tout le monde n'est pas Brian Westbrook.
Après, c'est au coach de lui dire aussi. Hein.
Tout le monde n'est pas Brian Westbrook. Tout le monde n'a pas le QI.
C'est au coach de lui dire.
Pour anecdote, Brian Westbrook ne devait pas poser le pied à terre. Et c'est ses linemen qui lui ont crié. Donc, tu vois, ça peut être tout le monde. Mais bon, le fait est que les Browns, je pense, quand même, vont pilonner et vont finir par y arriver. Mais là encore, match de division, tout peut arriver, c'est un match très serré.
Brands également pour moi. J'enchaîne avec Jets-Bengals, dimanche 19h. Si les Bengals ne se relèvent pas là, je ne sais plus trop quoi faire. Après, les Jets, on se moque beaucoup, mais ils remontent contre les Brands. Je ne sais pas s'il y a des motifs. On est sur du match potentiellement défensif et sale.
Oui, bah les Jets, écoute, ils ont gagné un match. C'est un peu tout ce qu'on leur demande. Hein. C'est un peu comme notre équipe de New York. L'important, c'est de gagner des matchs. La manière, tu reverras. De toute façon, ils seront toujours limités tant que Flacco sera là. Je dis pas qu'avec Zach Wilson, ce sera mieux, mais ça pourra être potentiellement plus fun. Oui, bah, comme tu le dis, c'est surtout un match couperet pour les Bengals, quoi. Enfin, il y a un moment, si tu gagnes pas ça, c'est fini.
Donc, relance des Bengals. Bengals pour tout le monde.
Oui.
Il en reste 4.
Il en reste 4. Écoute, ça,
Chiefs,
ça risque
Panthers,
d'être...
Panthers, Saints, Bears, Texans, Seahawks, Falcons.
Ça risque d'être une boucherie, mais je vais prendre Colts, Chiefs. Principalement parce que les Chiefs sont toujours fun à regarder. Mais alors là, vraiment, les Colts... J'ai dit, j'ai couvert le Jaguars Colts. C'était d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Cette équipe, tout le monde sous-performe. Le groupe semble mal vivre.
C'est peut-être l'enterrement des Colts, hein, d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas dans les équipes à 0-2 dont on a parlé parce qu'ils font un match nul tout naze contre les Texans en ouverture, mais ils auraient dû être à 0-2 et on aurait pu les enterrer avec les Raiders.
Hein. Bah pour moi, ils sont déjà
quoique
morts.
Non, ils ont leur... Quoique, ils ont leur division qui est nulle.
Oh, mais même ça. Franchement, avec les deux premiers matchs, pour moi, ils sont déjà morts. Je partage l'avis de Raphaël qui envoie Matt Ryan à la retraite. Ce système de prendre un nouveau quarterback vétéran tous les ans montre ses limites. La ligne sous-performe. Et puis, le coaching est vraiment un problème parce que quand même, tu fais courir 9 fois Jonathan Taylor dans tout le match. Alors, il y en a certains qui disent oui, ils étaient menés et tout. Mais même avant d'être menés, même le premier drive, même le deuxième drive, les mecs ne font que lancer des passes. Enfin, il y a un moment, l'identité de ta franchise, c'est Jonathan Taylor. Et tu ne l'utilises pas. Donc, pour moi, cette équipe dysfonctionne de partout. Coaching, attaque, défense. Je pense qu'ils vont se faire broyé par Kansas City.
Chiefs, donc, pour tout le monde. Les Panthers contre les Saints, derrière à 19h, pour moi, le dimanche. Normalement, avec toutes leurs armes, les Saints sont un peu de marge. Mais c'est un match de division, donc il peut se passer à peu près n'importe quoi. Là, honnêtement, on rentre dans la zone où les trois derniers matchs, ça, c'est les... Pour moi, ça, c'est trois purges. Et sincèrement, c'est pas des matchs que j'ai envie de regarder, quoi.
Bah,
donc, Saints, parce qu'il faut un vainqueur. Panthers, parce que ça sous-performe à cause du coaching et que ça risque pas de s'arrêter, visiblement. Donc, les Saints pour moi, mais vraiment pas un très joli match à regarder, quoi.
Non, je pense pas non plus, mais on va dire que le potentiel fun, il est du côté des Saints, hein, parce qu'il y a des playmakers défensifs, il y a Jameis Winston, oui. Il y a tout ça. Mais c'est vrai que les Panthers, je pense que même avec tout le talent, je veux dire, les Panthers peuvent pas, en étant aussi mal coaché, tu peux pas réussir.
Saints aussi pour toi ?
Oui.
Je te laisse choisir entre les deux derniers.
Il n'y a pas trop de débat pour le coup. Tu me connais, à force. Bears Texans.
Ah, on est d'accord.
Ah oui, il y a les Texans dedans. Donc,
ça va être tellement moche quand même.
Même si les Texans, c'était triste hein, contre les Broncos. Bah écoute, je sais pas. Justin Fields contre Davis Mills, deux jeunes quarterbacks.
Fields, il a tenté 28 passes, je crois, en deux matchs. Si j'ai bien...
Il est le 33e quarterback avec le plus de passes dans la ligue, sachant qu'il n'y a que 32 équipes. Et ça, c'est bon.
C'est quel remplaçant
qu'on a tenté
plus ? Ah ouais.
Ouais.
Oh là là.
Donc,
c'est la tristesse. Hein. Je sais que c'est un petit échantillon, mais là, vous avez les 29e et 32e attaques de la ligue. Hein. Donc ça va être d'une laideur. Hein.
Oui, bah, globalement, ça va jouer sur un coup de dé, sur une perte de balle, sur un coureur qui s'en va et qui fait un long gain. Ça peut aller dans les deux sens.
Texan pour toi ?
Ah bah évidemment.
Et donc c'est à 19h. Et donc on termine avec dimanche 22h25, Seahawks, Falcons. On est presque dur, tu sens que c'est parce qu'on aime bien Davis Mills que l'autre est au-dessus, parce qu'en vrai, celui-là, bah, il y a Cordarrelle Patterson, il y a DK Metcalf, il y a Arthur Smith qui coach pas mal ses Falcons, Marcus Mariota est pas ridicule. Bon, j'avoue que si vous supportez aucune de ces deux équipes et que vous matez ce match, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Bon, chacun son truc. Mais ça va pas être très très beau non plus. Les Seahawks sont éteints, non ? Ils ont marqué plus qu'un touchdown sur leurs 6 derniers cartons ou quelque chose comme ça après avoir bien commencé. Enfin, ça va être laid. Je vais dire les Falcons parce qu'ils sont. Je sais pas s'ils sont mieux coachés parce que j'ai toujours du mal à dire ça. Je sais pas, j'ai une sorte de respect pour Pete Carroll parce que c'est le doyen. Mais Arthur Smith se débrouille bien. Donc je vais dire Falcons.
Oh bah les plans de jeu de Pete Carroll, ils seraient bien si on était en 2005 et s'ils avaient Sean Alexander. Mais non, moi je pense que en effet les Falcons sont mieux coachés. Il y a une bonne dynamique. Ils ont eu victoires morales. OK, ils ont deux défaites mais ça passe pas loin. Ils ont des armes, tu l'as dit. Mariota, c'est quand même pas Enfin, je veux dire, c'est pas une catastrophe. Ok, ça a jamais été le numéro 2 de draft qu'on a espéré. Mais c'est un bon joueur. Il a Kyle Pitts, il a Drake London, il a des armes. Normalement, ça devrait le faire.
On termine avec le programme, je vous le remets dans l'ordre, parce que là on a fait dans l'ordre de la hype, je vous le remets dans l'ordre. Le match du jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est Browns Steelers. Dimanche à 19h, Panthers Saints, Bears Texans, Colts Chiefs, Dolphins Bills, Vikings Lions, Patriots Ravens, Jets Bengals, Titans Raiders et Commander Eagles, il y a du choix hein, à 19h. À 22h, Chargers Jaguars, Cardinals Rams, Seahawks Falcons, Buccaneers Packers, dans la nuit de dimanche à lundi, Broncos 49ers et dans la nuit de lundi à mardi, Giants Cowboys. Les matchs de la nuit sont pas dingues hein, quand même cette semaine. Il y aura moins de nuits blanches, j'ai l'impression, que sur les deux premières semaines.
Tu veux dire que personne va voir qu'on est résumé?
Ah voilà, il parle sur le jingle en plus, l'ami Victor. J'essayais de faire un truc un peu, tu vois, fluide comme ça, sans annoncer la rubrique suivante en balançant le jingle directement. Tu disais, personne va prendre les résumés, c'est ça, ouais.
Du coup, tu sais. Bah
attends,
que...
personne a voulu du Bills Titans. Déjà, qui était un beau match quand même.
Oui, mais il y avait des gens qui étaient occupés par Eagles Vikings. Qu'est-ce que tu veux que
je dise ? C'est ça. Merci encore à toi d'ailleurs. mais oui, puis il y a des gens qui aiment bien dormir, hein, je peux les comprendre aussi. Il faut s'économiser, c'est un marathon la saison NFL. Hein. Là, on est qu'en semaine 2-3, 3 maintenant. Bon. Les cotes de notre partenaire Unibet, Victor, est-ce que tu as des vues sur certaines cotes ? On a dit la semaine dernière, c'était méga galère parce que pas facile. On a des cotes intéressantes cette semaine. Il y a des trucs équilibrés. Et il y a des vrais paris. Tu vois, genre, si vraiment t'es foufou et que tu veux parier les Dolphins contre les Bills, ils sont à 2,68. Ils pourraient être plus haut,
ouais,
je trouve, quand même.
Ils pourraient être plus haut, je suis d'accord.
Ils pourraient être plus haut. Le Panthers Saints, qui est incertain. 2,16 pour les Panthers. Ah, si, moi, je sais ce que je joue. J'ai pas parié sur eux dans le match, mais pour moi, c'était un... Ça peut se faire si les Lions, ils sont à 2,72. Les Vikings sont très très favoris de ce match pour Unibet. Moi, les Lions à 2,72, je le tente.
Moi, j'avais
pas une fortune, mais je le tente.
J'avais deux matchs où celui qui n'est pas favori dans les cotes me semblait être favori sur le terrain. C'est des Texans face aux Bears à 2,19.
Ah yes.
Et j'avais les Falcons face aux Seahawks à 1,96. Les Seahawks sont favoris. Bon, moi, j'ai bien envie de miser les Falcons.
Alors, tu sais quoi, je vais me garder les Lions pour le YOLO, parce que la cote est haute quand même. Et j'aime bien celle que tu me donnes. Le Falcons 1,96 pour leur première victoire. Et l'autre, tu m'as dit, c'est... Je le retrouve plus. Texan contre Bears.
Texan à 2,19.
Ah oui, Texan à 2,19. Donc, Texan 2,19, Falcons 1,96. Et moi, je te proposerais bien les 49ers à 1,74. Contre les Broncos, ils sont favoris, mais c'est un bon favori.
Ouais, ouais.
Allez, le premier triplé fait donc Falcons à 1,96, Texans 2,19, 49ers à 1,74. Ça fait 5 euros misés, 37,34 € de gain potentiel. Le YOLO, j'ajouterais bien les Cowboys à 2,02 contre les Giants.
J'avais pas vu le Monday Night, mais...
Il était possible, ouais.
Du coup, le Cowboys à 2,02, je suis assez d'accord.
Il est pas mal. Le Lions à 2,72, il est pas mal aussi. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Une sixième pour le YOLO. Ah, les Jaguars, c'est trop. Les Packers sont à 1,96. J'ai presque plus de mal à croire à ça qu'à d'autres.
Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que tu n'as pas envie de miser
les Commanders pour l'upset?
Ouais, les Commanders, si tu veux.
Les Titans sont à 1,96.
Ouais, après c'est pas très YOLO ça, tu vois.
C'est pas très YOLO, ouais, c'est pas très YOLO.
Donc non, bah, les Commanders, allez, si tu veux, si ça peut apporter la bonne fortune.
Bah 5 euros misés, on monte à 650,31 € de gain potentiel avec un YOLO Falcons Texans, 49ers donc qui battraient les Broncos, les Cowboys qui battent les Giants, les Lions qui battent les Vikings et les Commanders qui battent les Eagles. En vrai, en dehors de la surprise Commanders Eagles, les autres sont à peu près faisable en tout cas, ce serait, tu vois, je tomberais pas de ma chaise si on m'annonçait que les Falcons ont battu les Seahawks, les Texans ont battu les Bears, les Niners battu les Broncos, les Cowboys battent les Giants, les Lions battent les Vikings et les Commanders battent les Eagles.
C'est clairement moins YOLO que la semaine dernière.
C'est clairement moins YOLO que la semaine dernière. Tu sais quoi, je vais mettre 1 euro dessus. Voilà, c'est le YOLO. Au moment où je te parle, hop, je me connecte sur mon compte Unibet. et je mets 1 euro pour 130,06 € de gain potentiel. Voilà, je viens de les mettre. On vous rappelle évidemment de jouer de manière raisonnable, de vous faire aider si vous sentez que ça devient un peu trop addictif et encore une fois de vous fixer des limites. Merci beaucoup Victor.
Eh bien merci à toi, merci à tous.
On se retrouve très vite pour parler NFL. Vous avez rendez-vous avec Victor et Jean-Michel le vendredi matin pour la draft et on se retrouve en rétro, on se retrouve dans le passé le samedi pour la chronique rétro. Le fauteuil, ce sera dimanche à 17h30. Vous avez l'habitude, TD Actu pour le site, les réseaux sociaux et tout le reste. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez. Merci beaucoup Victor.
Et merci à toi.
À très bientôt. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.